Bonsoir à chacun. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu et le chapitre 11. Matthieu, le chapitre 11 et le verset 28.
Pour certains, ça va déjà leur parler en leur citant la référence. Pour d'autres, en lisant les versets, ils vont se rappeler tout de suite de quoi il s'agit. Matthieu, chapitre 11 et le verset 28. Matthieu 11, 28, il est dit ceci, c'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous avez compris que ce soir, je vais rester dans la lignée de ce que M. Go prêche en ce moment, le repos. Et je réfléchissais à cette chose tellement simple et qui paraît évidente dans ce verset. C'est qu'il y a une condition pour obtenir le repos de Dieu, le repos de nos âmes. Et ça passe, cette condition, c'est la soumission, tout simplement. Et on va voir ensemble la soumission dans plusieurs domaines. Mais je réfléchissais à cette chose tellement simple. Comment physiquement on fait pour prendre du repos? Quelles sont les conditions qui font qu'on peut prendre du repos? Là, j'ai réfléchi à ça. Parce que c'est bon. Est-ce que c'est bon de prendre du repos physiquement? C'est bon, il ne faut pas en prendre trop aussi. Mais c'est bon d'en prendre un peu quand même. Et ceux qui ne prennent pas assez de repos physique, on sait que souvent ils sont touchés par une maladie où le corps ne supporte plus, à un moment donné, s'il n'y a pas assez de repos. Et je réfléchissais à ça. Physiquement, le repos n'est possible que si on est dans des conditions qui le favorisent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de bruit autour de nous, si on est dans un lieu calme, où on a les petits oiseaux qui chantent, ou le ruisseau qui coule à côté, ou toutes les conditions favorables au repos. Et j'imagine le jardin d'Éden, Adam et Ève, qui étaient dans le jardin d'Éden. Et je pense qu'eux, ils connaissaient le repos physique, déjà. Et ils connaissaient aussi le repos de l'âme. Mais ils étaient dans un cadre agréable, avec les animaux, les arbres fruitiers, la nature tout entière, le soleil qui brille dans les feuilles, tout ça. Et je pense que dans ce cadre-là, le repos, il était possible. Mais ce n'est pas forcément obligatoire qu'on trouve le repos dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce que si, à côté de nous, alors qu'on a toutes ces conditions, à côté de nous, il y a quelqu'un qui est malveillant, est-ce qu'on va s'endormir en paix, tout simplement? Si on a les oiseaux qui chantent, le ruisseau qui coule, toutes ces choses-là, mais qu'à côté de nous, on a un meurtrier qui nous regarde avec des yeux méchants, est-ce qu'on va s'endormir paisiblement? À votre avis, ça paraît évident? Non. De la même manière, est-ce que si on est dans un endroit où il y a des bêtes féroces tout autour de nous qui nous regardent aussi avec une faim, un appétit qui nous dévore des yeux déjà, mais qu'on est à côté de nous quelqu'un en qui on a confiance comme on l'a entendu et chanté, qu'on a toute confiance, qui peut nous protéger parfaitement, qui peut prendre soin de nous parfaitement, qui peut nous délivrer, fermer la gueule des lions, est-ce qu'on ne va pas dormir en paix? Eh bien, le repos, c'est ça, tout simplement. Le tout, c'est d'avoir la bonne personne à côté de nous. Que ce soit dans des bonnes conditions ou dans des mauvaises conditions, on pourra dormir paisiblement, on pourra reposer. Notre âme pourra trouver le repos. Qu'est-ce que le repos? C'est une quiétude, une tranquillité, l'exemption de peine de l'esprit, l'exemption de troubles et d'agitation, toutes ces choses-là. Et la Bible nous parle du repos de l'âme. Et Jésus nous dit littéralement qu'il désire que nous ayons le repos. C'est pas une option dans la vie chrétienne, le repos. C'est pas quelque chose qui est là et qu'on peut avoir en plus, une bénédiction de plus. Mais c'est ce que Jésus désire pour chacun de ses enfants. C'est ce que Jésus désire pour le pécheur, qu'il parvienne au repos de l'âme. D'ailleurs, Ésaïe 30, 15 nous dit: C'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais la suite nous dit ceci, mais vous ne l'avez pas voulu. Le repos, c'est quelque chose qui se désire, quelque chose qui se veut. Qui peut recevoir le repos? Jésus, il répond à cette question, c'est celui qui est fatigué ou chargé. C'est-à-dire le croyant qui peut-être est tombé, comme on l'a chanté, qui s'est fourvoyé, le croyant qui est tombé parce qu'il a voulu marcher selon la chair, qui a oublié de se confier en Dieu, qui a voulu se débattre avec ses propres forces pour essayer d'avancer, pour essayer d'obtenir quelque chose par ses forces à lui, par son intelligence, par son service peut-être. Mais il a essayé de se débattre et il arrive à un moment donné où il est épuisé, où les bras lui tombent et où il n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Peut-être il arrive dans cet état où il ne peut plus prier, où il pense qu'il a perdu la foi, où il pense que toutes sortes de pensées sont là dans son esprit. Mais le repos, c'est pour cette personne-là, mais c'est aussi pour le non-croyant, pour cette personne qui ne connaît pas Dieu, qui est là avec les blessures du passé, qui est là avec le stress du présent, et qui est là peut-être avec l'angoisse du futur. Des fois, le temps tout entier nous fait peur, que ce soit le passé, le présent ou le futur. Peut-être c'est la mort qui nous fait peur. Et pour la personne qui ne croit pas en Dieu, il n'y a pas cette assurance qui est là. Et elle se trouve dans un trouble, dans une inquiétude. Et notre monde actuel, il alimente cette inquiétude, il alimente ce trouble. Quand on regarde les informations, vous savez de quoi je parle. Je ne m'étale pas plus, mais on a tous besoin du repos, quel que soit l'état dans lequel on est par rapport à Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment obtenir ce repos. Et tous les enseignements qu'on entend nous amènent dans cette démarche de rechercher le repos que Dieu veut pour nous. Comment obtenir le repos divin? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est le désir du Seigneur. Et il nous dit ceci. Il nous donne tout simplement le mode d'emploi. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Comment avoir le repos ce soir? C'est se soumettre à la personne de Jésus. C'est se soumettre à son joug qui est doux et léger. Et quand on regarde précisément ce que c'était le joug à l'époque, bien sûr, nous on pense tout de suite aux deux bêtes, les bœufs qui sont attachés ensemble et qui avancent dans un champ. Et c'est vrai qu'il y a cette image qui est là. Mais ça va plus loin que ça. Le joug dont il est question, c'est littéralement quelque chose qui joint deux personnes ensemble. C'est un attachement volontaire. Il y a cette idée qui est là. Et vraiment, si on veut creuser encore un peu plus dans le joug, on pourrait parler du joug du mariage, par exemple. C'est vraiment le même esprit. Vous allez me dire, mais est-ce que le mariage, c'est un joug? Mais pour certains, oui, malheureusement. Alors que ce n'est pas le but de Dieu. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on est ado, on veut absolument être libre, on veut enfin ne plus dépendre de nos parents, on veut enfin avoir notre liberté à nous, pouvoir prendre nos décisions, pouvoir dépenser notre argent comme on veut, pouvoir se lever, prendre notre repos quand on veut. On veut toutes ces choses-là. Et quand on arrive à cette liberté, finalement, on veut tout de suite revenir sous un joug. C'est-à-dire, on veut se marier, absolument. C'est notre première pensée, c'est se marier, se marier, se marier. On veut absolument nous priver nous-mêmes de liberté, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais vous voyez, il y a cet état d'esprit qui fait que on a absolument en fait besoin d'être associé à quelqu'un. Quand on est petit, on n'a pas trop le choix, parce que c'est nos parents, mais on sait qu'ils nous aiment, on sait qu'on peut leur faire confiance. Mais quand on est plus grand, on veut s'associer à quelqu'un dans la vie. On veut porter le joug ensemble, on veut s'engager ensemble, on veut partager quelque chose ensemble, porter une famille ensemble. C'est vraiment toute cette image qui est là, quand il est question du joug. Et quand il est question de Jésus, et de porter le joug de Jésus, c'est vraiment pas le porter tout seul, mais le porter avec lui, à nos côtés. Et il y a, dans le Moyen-Orient, encore aujourd'hui, ils ont des attelages asymétriques, vous savez, parce que pour les personnes qui sont pauvres, ils n'ont pas deux bœufs. Alors il y en a un qui a peut-être un âne et un bœuf. Et vous savez que c'est pas la même force entre un bœuf et un âne, c'est pas pareil. Et ils sont obligés de faire des espèces de jougs adaptés pour que les deux animaux puissent tirer de la bonne façon, que ça aille droit. Parce que vous savez que s'il y en a un qui tire plus fort que l'autre, ça va avoir tendance à dévier. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il est à côté de nous, mais il marche à notre rythme. Et du moment que nous nous soumettons à son joug, à lui, nous soumettons à sa personne, et se soumettre à Jésus-Christ, c'est quoi? C'est se soumettre à la direction aussi qu'il donne à notre vie. Quand on fait toutes ces choses, du moment qu'on se soumet à lui, alors non seulement il nous aide à porter le joug, mais en plus il nous donne la force de le porter. C'est ça, se soumettre à la personne de Jésus. Comment recevoir le repos? En se soumettant à l'autorité de Jésus. Et quand on relit un peu plus haut, dans ce chapitre 18, au verset 27, Jésus qui parle, on regarde le contexte dans lequel il dit ces choses. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et tout de suite après, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Mais avant de pouvoir dire cette parole, il a prononcé des paroles d'autorité en disant, « Si vous voulez connaître Dieu, alors il faut passer par moi. Il faut vous soumettre à moi. Il faut accepter que c'est moi qui ai une autorité de la part de Dieu. Si vous voulez voir Dieu, alors il faut voir Jésus-Christ d'abord. Si vous voulez connaître le repos de Dieu, alors il faut venir à Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et il a pu le dire, parce qu'il faut que nous nous soumettions à son autorité. Prenez mon joug sur vous, et quand on regarde à la forme du joug à l'époque, parce qu'aujourd'hui ça a changé, mais quand on regarde la forme du joug à l'époque, il y a ce morceau de bois qui est là, qui relie les deux personnes, les deux bœufs plutôt, quand on prend cette image du bœuf, et il y a cette image qui est là, le bout de bois qui est en travers, qui relie les deux, et il y a ce morceau de bois qui relie le crochet en ferraille qui permet de retourner la terre. Et en fait, quand on regarde l'image, c'est l'image de la croix. Prendre le joug de Jésus-Christ, c'est aussi prendre sa croix. C'est revenir à la croix et la laisser labourer le terrain de notre cœur. Est-ce que c'est important que le terrain de notre cœur soit labouré? Eh bien, c'est important dans la mesure où on veut le repos. Si nous désirons le repos du Seigneur, il faut que notre cœur soit labouré. Il faut que notre cœur soit, la terre de notre cœur soit retournée, que les mauvaises choses puissent sortir, que les pierres puissent être révélées, que toutes ces choses-là sortent de façon à ce que le Seigneur puisse nous donner son repos. Et tant que ces choses sont là, et qu'on ne laisse pas, qu'on veut absolument conduire notre vie, qu'on veut absolument faire notre œuvre à nous, et qu'on croit être libre, eh bien, tout ce temps-là, Dieu ne peut pas nous donner le repos, tout simplement, parce qu'il nous a promis qu'il nous le donnerait dans la mesure où nous nous soumettrons à lui. Tout le secret, c'est dans la soumission à l'Éternel, à la personne de Jésus. Oui, nous devons préparer notre cœur. On peut lire dans Psaume, c'est quasiment, je dirais presque, c'est l'équivalent du verset qu'on a lu, mais dans l'Ancien Testament. Psaume 95. Psaume 95 est le verset 6. On vient de lire un appel de Jésus à venir. Maintenant, on va écouter un autre appel, quelqu'un d'autre qui nous dit de venir, et venir à Dieu. Psaume 95 et le verset 6, pardon. Il y en a qui suivent, c'est bien. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. » Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aussi vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quelle parole terrible. Pourtant, c'est Dieu qui les prononce. Pourtant, c'est Dieu qui prononce ces paroles. Ils n'entreront pas dans mon repos. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas soumis. Et justement, le psalmiste qui écrit ces paroles, il nous dit, venez, et qu'est-ce qu'il nous dit en plus? Prosternez-vous, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons le genou. Il n'y a pas De choses plus claires, il est obligé de le répéter 3 fois pour qu'on comprenne bien que si nous voulons le repos, si nous voulons que Dieu puisse nous donner le repos, il faut que nous passions par la prosternation, par ce fléchissement de l'être, ce fait de se courber devant le Seigneur et de dire « Seigneur, j'accepte les conditions que tu me donnes. J'accepte tout sans condition d'ailleurs. Je t'accepte sans condition, j'accepte de me soumettre à toi tout simplement parce que je sais que je peux te faire confiance. » Je sais que je peux, quelle que soit la décision, quel que soit l'endroit où tu vas me demander d'aller, je sais que tu es avec moi. Je sais que c'est par là que passe le repos. Comment obtenir le repos? On l'a dit en prenant son joug sur nous. Et aussi, comment prendre son joug? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est se soumettre à Dieu en tant que le Créateur. Comme on l'a lu dans ce passage, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Beaucoup de gens croient en l'existence de Dieu, ou croient en l'existence de quelque chose, du moins qui est au-dessus de Dieu, au-dessus de l'homme, pardon. Quand on regarde la nature autour de nous, c'est vrai qu'on a cette idée qui vient là, qui s'impose à notre esprit. Et j'aimerais simplement vous donner quelques exemples de hasards qui sont tellement grands que... tellement grand qu'on est obligé de dire que c'est Dieu ou qu'il y a une intelligence qui est derrière tout cela. Le fait que la Terre est parfaitement proportionnée. Vous savez que si la Terre était plus petite, l'atmosphère serait impossible. C'est d'ailleurs le cas de la planète Mercure qui est tellement petite que l'atmosphère ne peut pas rester. Mais si la Terre était plus grande, son atmosphère contiendrait de l'hydrogène. Et on sait que l'hydrogène, nous on respire un peu, mais en grande quantité, c'est pas bon. La Terre est parfaitement proportionnée pour que la vie puisse être là. Mais il n'y a pas que ça. La Terre, elle est à la bonne distance du Soleil. Si elle était trop près du Soleil, on mourrait de chaud. D'ailleurs, la vie ne pourrait même pas être là parce que ça serait cramé. Mais si on était trop loin du Soleil, on serait gelé. Elle est à la bonne distance du Soleil. Et il y a cette histoire qui me revient... d'une personne qui va chez un coiffeur et alors qu'ils sont en train de discuter et donc le coiffeur est en train de couper les cheveux à la personne, ils sont en train de parler de Dieu et le coiffeur il dit ah non c'est moi vous voyez je crois pas en Dieu parce que si Dieu existait vraiment pourquoi il y aurait tant de souffrances, pourquoi il y aurait tant de personnes qui souffrent, pourquoi il y aurait des guerres, pourquoi il y aurait tant de malheurs. Pourquoi il y aurait des personnes qui meurent de faim? Pourquoi il y aurait toutes ces choses? Et puis le chrétien qui est là, qui se fait couper les cheveux, et qui n'a pas envie que le coiffeur glisse un peu, et il préfère rien dire sur le coup, et puis il garde ça, il réfléchit. Et puis il s'en va, il paye, il s'en va. Et puis dans la rue, il voit quelqu'un qui a les cheveux longs. Alors, je ne sais pas si c'est un SDF ou quoi, qui a les cheveux longs, une grosse barbe. Ça fait, à première vue, ça fait des mois qu'il n'a pas été chez le coiffeur. Et le chrétien, il prend cet homme-là. Je ne sais pas comment il arrive à le convaincre, mais il arrive à le prendre et il l'amène au salon de coiffure. Et il lui dit tout simplement au coiffeur, « Vous voyez, moi, je crois pas que les coiffeurs, ils existent. Parce que si les coiffeurs existaient, cet homme-là... Il serait bien peigné, il serait bien rasé, il serait nickel. Mais comme il y a des personnes comme ça qui existent, des personnes qui ont les cheveux longs, qui sont mal rasés, alors forcément, les coiffeurs n'existent pas. Mais le coiffeur, mais il suffit qu'il vienne dans mon salon, mais moi je vais m'occuper de lui, et après il sera parfaitement propre. » Et le monsieur lui dit, « Vous voyez, c'est la même façon avec Dieu. Il suffit que l'homme... reste sans Dieu pour que tous les malheurs arrivent. Mais si vous voulez que ça change, il faut que l'homme revienne à Dieu. Il faut que l'homme revienne à celui qui peut changer sa vie, à celui qui peut le libérer du péché. Parce que si on n'est pas sous le joug de Jésus-Christ, forcément, on est sous le joug du péché. C'est la Bible qui nous le dit. La question n'est pas de savoir si on va enfin se débarrasser d'un joug. Parce que c'est vrai que à première vue, quand Jésus parle et nous dit « Je vous donnerai le repos seulement si vous prenez mon fardeau à moi », ça ne nous paraît pas appétissant, à première vue. Mais quand on sait qu'on est déjà sous un fardeau lourd et pesant, c'est-à-dire celui du péché, et qu'on n'a pas le choix, soit on est sous celui-là, soit on est sous celui de Jésus-Christ, qui est doux et qui est léger, alors ça change radicalement dans notre esprit. Le fait de porter un joug, ce n'est plus quelque chose de différent, surtout quand on le comprend dans le sens d'un engagement volontaire avec une personne, qu'on fait un morceau de chemin ensemble, et quand on sait que c'est avec Jésus-Christ, c'est pas seulement jusqu'à notre mort, mais c'est jusqu'à toute l'éternité. On va passer notre temps avec Jésus-Christ. Et on sait que lui a les bonnes décisions, il a assez d'intelligence et de sagesse pour savoir ce qui est bon pour nous dans les situations bonnes comme dans les situations difficiles. On sait que lui veut notre bien. Alors comment avoir le repos? Il faut recevoir aussi ses instructions. Il faut non seulement se soumettre à la personne de Jésus, mais il faut se soumettre à la voix de Jésus. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette voix? On l'a lu ensemble. Fléchissons le genou, verset 6, on peut relire même tout le verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Et regardez le cri du psalmiste. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, si vous pouviez... Écoutez aujourd'hui sa voix qui nous dit justement, recevez mes instructions. On peut faire le parallèle. D'un côté, il faut prendre notre joug, prendre le joug du Seigneur, pardon, et de l'autre côté, il faut écouter la voix, recevoir les instructions du Seigneur. Et comment on fait ces choses? Eh bien, la première chose à ne pas faire plutôt pour pouvoir recevoir les instructions, c'est ne pas endurcir notre cœur, comme l'ont fait les Israélites dans ce lieu de Massa. Vous connaissez l'histoire? Est-il besoin encore de la rappeler, peut-être? Alors qu'ils étaient dans le désert et qu'ils arrivent dans cet endroit où il n'y a pas d'eau, ils font cette prière, donnez-nous de l'eau à boire. Et alors qu'ils ont vu beaucoup de délivrances, beaucoup de miracles, ils ont vu toutes sortes de choses, et des trucs incroyables. Ils ont vu la mer s'ouvrir devant eux. Ils ont vu les mains tomber du ciel. Ils ont vu les cailles arriver. On l'a reparlé dimanche après-midi. Ils ont vu beaucoup de miracles. Et ce n'était pas la première fois que Dieu venait à leur secours, à leurs besoins physiques. Et pourtant, le peuple était là, pressé par la soif. Et qu'est-ce qu'il a fait, étant pressé par la soif? Il a murmuré contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Et il était prêt à lapider Moïse. Vous voyez les dispositions de cœur de ce peuple. Est-ce qu'ils avaient confiance en leur conducteur? Est-ce que Dieu était leur berger? Est-ce qu'il était le berger du peuple d'Israël? Oui, mais est-ce qu'il était leur berger dans leur cœur? Non. Parce qu'ils n'avaient aucune confiance en lui. Tandis que les brebis, quand elles connaissent le berger, elles écoutent sa voix. Et là, elles n'écoutaient pas sa voix. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il est allé voir le Seigneur et l'Éternel lui a dit « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba parce que, écoutez bien, les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Voilà la manière dont on endurcit notre cœur. Alors qu'on voit de façon évidente que Dieu agit dans notre vie, et quand on réfléchit de manière logique, même pas spirituelle, mais simplement logique, quand on voit la différence entre avant et après, quand on voit tous les progrès qu'on a fait, quand on voit comment Dieu a transformé notre vie radicalement, et que malgré toutes ces choses-là, on rencontre une épreuve, et on est dans le trouble, et on est dans la peur, et on est dans la crainte, parce qu'on ne veut pas croire à la parole de Dieu. Alors oui, on endurcit notre cœur en ce moment-là. Oui, il y a quelque chose qui se passe en nous qui fait que notre cœur devient comme un cœur de pierre. Et si on veut reconnaître le repos du Seigneur, si on veut recevoir les instructions du Seigneur, il faut qu'on arrive à rendre nos cœurs souples, à faire cette prière que notre cœur soit comme un cœur de chair. Et c'est ce que le désire l'Éternel pour nous. Et comment on peut également recevoir les instructions du Seigneur? C'est quand on obéit. Et là, je vais vous lire, peut-être le lire ensemble, Hébreux 4,
Hébreux 4 et le verset 1. En obéissant à la parole du Seigneur, parce qu'il ne suffit pas d'écouter, il faut recevoir les instructions, il faut les faire pénétrer en nous, il ne faut pas endurcir son cœur. Et comment on endurcit son cœur? En doutant que Dieu est avec nous malgré toutes les choses qu'il a faites, mais en obéissant. Et là, c'est ce qu'on va voir dans Hébreux, chapitre 4 et le verset 1er. Hébreux 4, verset 1er. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? C'est la promesse du repos de Dieu, elle subsiste encore. « Craignons donc qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Et on va lire au verset 11. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Amen. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien à eux qu'à nous. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, en gros, il a eu le message de Dieu. Mais il n'a pas trouvé, ce message n'a pas trouvé de foi dans leur cœur. Et si nous voulons goûter au repos, si nous voulons recevoir les instructions, nous devons avoir la foi dans la parole. Et comment avoir la foi dans la parole si nous ne connaissons pas la parole, si nous ne méditons pas la parole, si nous ne nous nourrissons pas de la parole? Comment pouvons-nous recevoir les instructions du Seigneur si ce n'est pas lui qui est notre guide, qui est le bon berger qui nous guide par sa voix? Comment ne recevoir le repos si la Bible n'est pas notre livre de chevet? Et si nous n'apprenons pas à écouter ces directives? Et je réfléchissais encore à comment recevoir les instructions du Seigneur. Comment faire que notre cœur, qui s'est peut-être endurci par les circonstances de la vie, par notre incrédulité, par toutes sortes de choses, par le fait que les épreuves nous ont désespérés, nous ont emmenés à un temps où on est déçu peut-être, et au lieu de nous remettre en question, on remet Dieu en question. Comment, dans cet état-là, recevoir les instructions du Seigneur? Eh bien, il y a ce passage qui est tout simple, qui dit que les instructions du Seigneur se répandent comme la pluie, que sa parole tombe comme la rosée. Et en fait, il suffit d'ouvrir son cœur, tout simplement. Et il suffit de pas de l'ouvrir beaucoup, mais il suffit de commencer à ouvrir son cœur. Et là, la parole qui est comme la pluie, comme la rosée qui tombe sur la terre, elle va pouvoir s'infiltrer, elle va pouvoir pénétrer en nous, elle va pouvoir faire son œuvre en nous. Et on peut lire pour finir ce verset d'Ésaïe 55. Ésaïe 55 et le verset 10, qui nous parle justement de la puissance de la parole de Dieu qui peut pénétrer dans un cœur, qui ne revient pas à Dieu sans effet. Ésaïe 55, verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ça, c'est la parole du Seigneur, la puissance de la parole du Seigneur. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Est-ce que la volonté du Seigneur, c'est que nous ayons le repos? Oui, puisqu'il nous le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. La volonté du Seigneur. Sa parole, donc, tout entière, nous dit que Dieu veut le repos. Mais est-ce qu'on va ouvrir notre cœur? Est-ce qu'on va laisser cette parole pénétrer notre cœur? Pas seulement la faire agir en surface. Et on sait que l'eau en surface, l'eau dans une flaque, ça n'apporte pas la vie. Mais si ça pénètre dans la terre, si ça rencontre la semence, si ça rencontre le grain de la foi qui est là, ça va pouvoir germer, ça va pouvoir porter du fruit. Mais si ça reste en surface, ça ne va rien apporter. Il faut que nous ouvrions nos cœurs à la parole du Seigneur
Il faut que nous laissions les promesses de Dieu nous pénétrer. Il faut que nous laissions la parole de Dieu tout entière infiltrer notre vie, dans les moindres détails, dans les recoins les plus cachés de notre existence, là où on voudrait que personne n'aille toucher, là où on voudrait que personne n'aille voir quoi que ce soit. Laissons la parole du Seigneur faire son effet dans ces endroits-là. Parce que c'est comme ça que nous aurons le repos. Quand nous recevrons ces instructions véritablement, quand nous nous soumettrons à sa parole, et que le Seigneur nous amène à cet endroit où il ne peut pas nous dire qu'il ne peut rien faire pour nous. Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quelle parole terrible! Mais pourquoi il a pu prononcer ces paroles? Parce que justement, il n'avait aucune foi, il n'y avait aucune démarche de remise en question, il n'y avait aucune démarche de faire en sorte que le cœur redevienne souple alors qu'il était dur. Le Seigneur désire que nous entrions dans son repos tout simplement. Souvenons-nous, et je vais finir avec ceci. Souvenons-nous que le joug du Seigneur, le fardeau du Seigneur, il est doux et léger. Et quelle que soit la difficulté que nous rencontrons actuellement, quelle que soit la grandeur de l'épreuve, nous savons que le repos du Seigneur, il est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. Il va pouvoir combler parfaitement. Il va pouvoir rassasier parfaitement l'âme qui est fatiguée et chargée. Parce que le Seigneur ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces. Mais à chaque fois qu'il va nous éprouver, il va nous donner aussi le moyen de nous en sortir. Ça, c'est notre Seigneur. Il n'est pas là en disant, ouais, celui qui reste endurci ne connaîtra jamais le repos. Mais il est là, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous peut-être qui avez le cœur endurci, vous qui avez le cœur dans la peine, dans la souffrance, vous qui bataillez depuis des années pour tel ou tel péché, vous qui contestez avec le Saint-Esprit, qui ne voulez pas céder. Le seul moyen, ce que vous voulez, si vous voulez obtenir le repos, c'est de céder justement. C'est de laisser tomber les armes de terrestres. C'est de laisser tomber la volonté terrestre. C'est de laisser tomber la chair. C'est de laisser tomber tout appui humain, toute richesse, toute pensée qui pourrait faire croire qu'on vaut quelque chose. Et c'est de laisser tomber toutes ces choses et de dire, Seigneur, maintenant, je veux goûter à ton repos. Je me soumets à toi. Je me soumets à ta personne. Je me soumets à ta voix. Et alors, le Seigneur pourra nous donner son repos parce que c'est sa volonté. Que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur. Merci parce que ta parole est vivante et efficace. Et ce soir, Seigneur, nous désirons simplement une chose, c'est que ta parole puisse pénétrer dans les cœurs, Seigneur, dans nos cœurs, à chacun en particulier, parce que nous savons que c'est de cette manière que nous pourrons goûter au repos que tu veux, Seigneur, pour nous. Oui, nous désirons le repos de l'âme, non pas pour ne rien faire, non pas pour tomber dans la paresse, mais nous désirons le repos de l'âme pour pouvoir par la suite aider nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, pour pouvoir remporter des victoires, Seigneur, pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. Oui, nous désirons le repos de l'âme pour que nous puissions être puissants dans notre témoignage pour toi, Seigneur. Oui, nous désirons le repos de l'âme pour ne plus nous contenter de batailler en nous-mêmes, mais pour remporter des victoires pour toi à l'extérieur, dans ce monde qui se perd. Merci de remplir nos cœurs de ta parole. Merci de nous apprendre à discerner ta voix, Seigneur. Merci de nous apprendre à nous soumettre à ta personne, à porter notre croix, Seigneur. Porter cette croix, à labourer nos cœurs, Seigneur, dans ta présence, par ton Saint-Esprit, tu puisses venir labourer nos cœurs, Seigneur. Nous faire ressortir les choses qui en nous ne vont pas encore, pour que tu puisses, par la suite, déverser ton repos tout entier sur nos vies, dans la plénitude de ton esprit, Seigneur. Parce que tu es riche en bonté pour ceux qui te craignent. Oui, Éternel, nous te bénissons, nous te louons dans cette soirée, parce que tu as prévu un plan de paix pour l'homme, tu as prévu des projets de paix et non de malheur pour l'humanité. Oui, Seigneur, c'est cette nouvelle-là que nous voulons annoncer autour de nous, que tu es le Dieu qui donne le repos de l'âme, mais nous voulons le vivre avant de le pouvoir le dire, Seigneur. Alors permets que encore dans cette soirée, Seigneur, des personnes puissent trouver le repos, Seigneur, des personnes puissent être rafraîchies dans ce repos, et des personnes qui ne te connaissent pas puissent goûter au repos que tu donnes. Oui, Seigneur, dans ce monde de difficultés, dans ce monde de troubles, dans ce monde d'inquiétude où la peur est là et règne en maître, Seigneur, nous voulons goûter à ce repos surnaturel que toi tu donnes. Merci de bénir ces instants, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit béni. Amen.